Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1, très bon début de journée à tous.
Si je suis confirmée, je n'assumerai pas seulement ce rôle pour la cause des miens et encore moins dans mon propre intérêt. J'endosserai ce rôle pour vous servir tous.
Une femme conservatrice nommée à la Cour suprême, mais une juge qui se dit impartiale, Amy Coney Barrett, désignée hier soir par Donald Trump, le président sortant.
Un dernier pour la route à Lille, avant la fermeture à 22h demain des bars et des restaurants. Reportage avec des étudiants.
Le profil de l'auteur de l'attentat de vendredi à Paris se dessine. Nos confrères du JDD ont même pu pénétrer dans son appartement.
Et puis Neymar et Mbappé enfin alignés. Pour la première fois de la saison, Reims recevra un PSG de gala.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Donald Trump cadenasse la Cour suprême à 40 jours de l'élection présidentielle.
C'est l'image de la nuit. Amy Coney Barrett arrivant à la Maison Blanche. Elle vient renforcer la majorité conservatrice au sein de la Cour suprême. À 40 jours de l'élection, c'est un choix éminemment politique. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. ACB, c'est désormais son surnom, a déjà eu l'occasion de s'exprimer.
Oui, Amy Coney Barrett, 48 ans, élégante, est une juge ultra-conservatrice et une fervente catholique. Elle est arrivée hier dans les jardins de la Maison Blanche aux côtés de son mari et de leurs 7 enfants, dont 2 originaires d'Haïti ont été adoptés. Elle est personnellement opposée à l'avortement et favorable au port d'armes, mais si elle est confirmée par le Sénat, elle assure qu'elle aura l'intérêt de tous les Américains en tête.
Si je suis confirmée, je n'assumerai pas seulement ce rôle pour la cause des miens et encore moins dans mon propre intérêt. J'endosserai ce rôle pour vous servir tous.
Sa confirmation fait peu de doute puisque le Sénat est dominé par les Républicains. Le vote des sénateurs devrait avoir lieu une semaine avant l'élection présidentielle. Donald Trump veut aller vite. Il espère galvaniser sa base électorale avec cette nomination. Mais les démocrates sont furieux. Ils demandaient au président de ne pas nommer de juge avant l'élection. Trump a ironisé sur le sujet.
Ça devrait être très facile. Bon courage, ça va aller vite. Je suis sûr que ce ne sera pas controversé du tout.
Hier soir, le candidat démocrate Joe Biden a de nouveau appelé le Sénat à ne pas confirmer de nomination tant que les Américains n'auront pas choisi leur prochain président et leur prochain congrès.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko doit partir. Déclaration d'Emmanuel Macron dans le JDD ce matin. Le chef de l'État se rend demain en Lituanie et en Lettonie. Deux États baltes qui espèrent son appui face à la crise politique en Biélorussie.
À partir de demain, à Lille comme à Paris, les bars ferment donc à 22h.
Un coup dur pour les tenanciers qui paient un lourd tribut économique. L'ambiance était même un peu morose hier soir pour ce dernier samedi festif. Reportage à Lille de Maximilien Carlier.
Ce soir, c'est la dernière soirée. On va essayer de marquer le coup, du coup.
Martin trinque avec des amis avant la fermeture des bars demain 22h.
Tout le monde va venir avec le désir de danser un peu pour la dernière fois, je pense. Hein.
Et c'est rempli, bien rempli de jeunes, rue Masséna, rue de la Soif.
Ce soir, on est complet en termes de réservation.
Lucas est patron du Garden Bar.
Les gens réservent parce qu'ils savent qu'à partir de la semaine prochaine, moi j'ai beaucoup de clients qui viendront plus, hein, qui m'ont dit ça sert à rien, à 22h, me déplacer pour me faire une heure de route ou quoi, et qu'est-ce, ça sert à rien de venir, donc on va perdre beaucoup de clientèle.
60% de chiffre d'affaires en moins, 12 000 euros de pertes selon ce gérant, des tenanciers qui envisagent de modifier leurs horaires d'ouverture. Certains étudiants y sont favorables.
Et on commencera plus tôt, quoi.
Ouais, c'est ça. 14h, on est parti.
Ouais, 14h, on va au bar, quoi.
Mais la fête risque aussi de se déplacer, commencer la soirée dans un bar, puis la terminer en appartement. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et l'Ordre national des médecins tire la sonnette d'alarme ce matin. La deuxième vague arrive, nous dit le président de l'institution.
Patrick Bouet estime que la France devra affronter une épidémie généralisée, justement, si rien ne change, avec un système de santé, dit-il, incapable de répondre à toutes les sollicitations.
On en sait un peu plus sur le profil de l'assaillant du 11e vendredi, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
En garde à vue, le jeune homme de 18 ans, natif du Pakistan, a confirmé ses aveux. C'est bien Charlie Hebdo qu'il visait. Son profil, donc, se dessine. D'autant qu'Emmanuel Soufi du JDD a pu rentrer dans l'appartement du suspect à Pantin.
C'est un immeuble de 4 étages. Il habitait au 1er étage avec plusieurs colocataires, uniquement des gens de la communauté pakistanaise qui vivaient là, visiblement, d'après les voisins qu'on a pu rencontrer depuis environ 2 ans, avec une grande promiscuité, avec des lits superposés qui jonchaient l'appartement. Il y avait énormément de valises, hein, ce qui prouve aussi que l'appartement avait beaucoup d'occupants. Les occupants donne l'impression d'avoir été surpris. On a pu voir qu'il y avait encore une cocotte avec sans doute le repas du soir qui était prêt à être réchauffé. Comme si le temps s'était arrêté, la porte qui n'a pas été scellée est restée entrouverte un peu au vu et au su de tout le monde et notamment du voisinage.
Emmanuel Soufi du JDD, on rappelle que 8 autres personnes sont toujours en garde à vue ce matin.
Et c'est dans ce contexte aussi qu'Emmanuel Macron prononcera vendredi prochain son discours sur le séparatisme.
Oui, le chef de l'État qui ne s'est pas exprimé publiquement sur l'attaque du 11e arrondissement doit parler avant un projet de loi qui sera présenté à l'automne. Un discours plusieurs fois reporté mais désormais attendu, Aurélie Herbemont.
Les ennemis de la République ne gagneront pas, c'est le message qu'a voulu faire passer le Premier ministre hier en se rendant à la préfecture de police de Paris. Les ennemis de la République seront justement au centre du discours d'Emmanuel Macron prévu vendredi prochain. Après plusieurs reports, le chef de l'État doit prendre la parole contre le séparatisme et l'islamisme radical. C'est à ce moment-là qu'il pourrait parler de cette nouvelle attaque qui a visé Charlie Hebdo. Le président n'a en effet rien dit publiquement depuis, même s'il a contacté les familles des victimes pour leur exprimer soutien et solidarité. Alors que la menace terroriste reste élevée, de l'aveu même de la place Beauvau, une partie de l'opposition réactive ce week-end le procès en inaction. Marine Le Pen dénonçant la lâcheté de l'exécutif, des figures LR telles Bruno Retailleau ou Éric Ciotti exhortant Emmanuel Macron à sortir du silence et à arrêter de retarder les décisions pour combattre l'avancée de l'islamisme. Le discours du chef de l'État sera donc d'autant plus attendu qu'il interviendra dans un contexte tout sauf serein.
Les grands électeurs choisissent 172 sénateurs. Aujourd'hui, on renouvelle la moitié du Sénat, assemblée dominée par la droite depuis 2014 et qui devrait le rester.
8h06, à suivre cette question. Les cyclistes ont-ils droit à tout ? On profite de la journée sans voiture à Paris pour justement poser cette question.
Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal de 8h de Lénaïque Meunier. La météo n'est peut-être pas idéale, mais entre deux averses, vous pouvez peut-être profiter de Paris sans voiture aujourd'hui.
Et sans conflit, parce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les automobilistes et les cyclistes de plus en plus nombreux. Des néophytes qui parfois s'affranchissent des règles élémentaires du code de la route, comme griller les feux par exemple, Virginie Salmen.
Oui, on l'a tous vu, un cycliste qui traverse le carrefour comme une flèche, un autre qui regarde à gauche, à droite, s'il n'y a personne et y va. Xavier les voit faire, consterné, lui s'interdit de faire ça.
Je ne grille jamais les feux rouges, je ne peux pas dire que sur toute ma carrière de cycliste qui commence à être longue, je n'ai pas grillé un ou deux, mais vraiment j'en ai fait vraiment une question de principe. C'est pour donner l'image du cycliste la plus positive possible.
Pourtant, une partie des cyclistes explique que passer au feu rouge à vélo, c'est logique. Écoutez les arguments du président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, Olivier Schneider.
Autant les incivilités envers les piétons sont absolument inadmissibles de la part des cyclistes, autant les feux tricolores ont été conçus pour optimiser les flux automobiles et donc ils sont peu compatibles avec la pratique du vélo. Je comprends parfaitement des cyclistes qui, à certaines heures, même si ce n'est pas autorisé parce qu'il n'y a pas le panonceau, considèrent ce feu comme un cédé le passage. C'est choquant parce qu'on a été conditionné à regarder la couleur du feu, mais en réalité, ce ne sont pas ces comportements-là qui sont dangereux.
Et les associations poussent pour aller encore plus loin, transformer les stops en céder le passage pour les cyclistes, dans la même logique. Une idée qui pourrait se concrétiser d'ici quelques mois seulement dans certaines villes.
La journée sans voiture à Paris aujourd'hui entre 11h et 18h, ça signifie qu'aucun véhicule motorisé ne circule dans Paris intramuros, deux roues et véhicules électriques compris.
Le foot, retour ce soir d'un PSG de gala.
Oui, après le Covid et les suspensions, on n'avait pas vu le PSG et ses stars réunis depuis le début de la saison. Ce soir, à Reims, Neymar et Mbappé seront donc enfin associés, Julien Froment.
Cela semble évident, mais l'entraîneur Thomas Tuchel se sent obligé de le rappeler. Avec ou sans le duo Kylian Mbappé-Neymar, ce n'est plus le même Paris Saint-Germain. Les deux hommes, impliqués l'an passé dans plus de la moitié des buts de leur équipe, ont débuté cette saison en alternance. Un coup l'un, un coup l'autre, jamais ensemble, à cause soit du Covid, soit d'une suspension. Les voilà enfin réunis ce soir contre Reims, pour le plus grand plaisir de leur entraîneur.
Si les deux jouent pour nous, ça change tout, parce que c'est plus difficile de défendre, c'est plus facile pour nous d'attaquer, d'ouvrir des espaces. C'est clair. Est-ce qu'on a trouvé des solutions sans les deux? Oui. Est-ce que c'est la meilleure chose? Non, parce qu'on veut jouer avec les deux. Et les deux sont là pour faire la différence. Et les deux sont bien ensemble. Et ils vont commencer ensemble, c'est sûr.
Mais que Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain et les supporters en profitent, car ces retrouvailles pourraient être rapidement écourtées. En effet, mercredi, Neymar sera entendu par la commission de discipline de la Ligue. Dans le cadre de l'affaire de racisme qui l'oppose au Marseillais Alvaro González, le Brésilien, qui aurait également tenu le même genre de propos, envers Hiroki Sakai est aussi dans le collimateur de l'instance disciplinaire. Il risque, tout comme Alvaro, jusqu'à 10 matchs de suspension.
Reims-PSG à 21h en direct intégral sur Europe 1. Europe 1 qui est également la radio officielle de Roland-Garros qui démarre tout à l'heure avec Benoît Paire notamment et Wawrinka face à Murray.
Là, vous savez qu'il y avait une petite polémique sur le toit du Châtrier, comme quoi il ne serait pas étanche. Ben, Bernard Giudicelli, le patron de la FFT, nous a donné l'explication tout à l'heure. Ce n'est pas un vrai toit comme un toit ouvrant par exemple dans une voiture. C'est une bâche qui est posée dessus. Donc quand il y a une levée de grand vent, comme ça peut arriver ces jours-ci, bah effectivement, il y a peut-être un peu
ça
plus qui passe.
Un peu,
voilà,
ouais.
Ça s'écoule un peu. Voilà l'explication. En tout cas, après l'été indien, la neige et tout ça, le même mois.
Et oui, tout ça du côté des Alpes, à 1500 mètres. On n'avait pas vu ça depuis 13 ans. Reportage de Laura Tchaouchanoff.
Sur les vallées du Beaufortin, certains amateurs comme Romuald se précipitent sur les premières neiges fraîches et du ski seul au monde sur des pistes désertes en septembre.
Push.
Du jamais vu pour ce Savoyard de 45 ans.
Nous étions dans une espèce d'excitation enfantine. On passait brutalement d'un environnement encore estival à un environnement complètement hivernal. Et seules les vaches, finalement, en plein milieu des prés avec de la neige, nous rappelaient qu'on n'était pas encore en hiver.
Les éleveurs doivent réagir vite pour mettre leurs bêtes à l'abri. Bruno Mattel vit dans le massif du Mont Blanc.
On a dû redescendre des bêtes, en tout cas les plus jeunes. Normalement, dans le planning, on a encore deux semaines où les bêtes doivent rester encore en montagne pour pouvoir brouter l'herbe des alpages encore. C'est le temps qui va décider. C'est la neige qui nous repousse dans la vallée.
Mais ces conditions hivernales profitent déjà à certaines stations. Lucie Sachaud est représentante de Val Thorens.
Depuis deux jours, on a de la réservation qui se fait et les gens, je pense qu'ils ont vraiment hâte de venir skier avec une saison qui a été amputée l'année dernière.
En 2007, il avait déjà neigé au mois de septembre, mais dans des quantités bien moins impressionnantes.
Et la neige qui va continuer à tomber encore aujourd'hui, même encore plus bas, à 1200 mètres,
ouais,
dit-on.
C'est ce que nous confirmait Valérie Darmon. Merci, c'était le journal de Lénaïque Meunier.